Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Fracture. Fracture, une émission que vous écoutez sur Pulsar 95.9 tous les vendredis à 18h. Et en ce moment, émission un peu spéciale puisque nous l'enregistrons en confinement. Nous sommes d'ailleurs le jeudi 2 avril. Je vous parle donc de chez moi et je suis en ligne avec Daria. Bonjour Daria.
Bonjour Julia.
Et aujourd'hui, c'est Julo de Mille Montants qui assure la technique. Alors, nous allons parler de plusieurs choses aujourd'hui, en pleine épidémie, comment ça se passe à l'hôpital, qu'en est-il de nos libertés, et enfin, nous parlerons un peu conditions de travail. Mais avant ça, on retrouve Daria pour quelques brèves.
On va commencer par la mort de Patrick de Vegian, donc qui a été célébrée par toute la classe politique et une partie des médias. Qui ont oublié le passé fascisant de Patrick de Vegian, à savoir son appartenance au groupuscule d'extrême droite Occident dans les années 60, groupuscule qu'il avait rejoint avec tout un tas d'autres membres politiques, comme Alain Madelin, Hervé Novelli, Claude Guesguen, Gérard Longuet, voilà, donc des gens au pédigré politique fourni, puisque un grand nombre d'eux ont été ministres de la droite, notamment sous Sarkozy. On trouvera plus d'infos sur le site alouest.info. Une brève internationale maintenant, où lundi, sur les plateformes logistiques d'Amazon, de San Francisco et de New York, il y a eu un mouvement de grève pour réclamer plus de protection de la part des salariés qui continuent de travailler. Rappelons qu'en France, contrairement à ce que affirmait la direction d'Amazon au début de la pandémie et du confinement, l'activité n'a pas été reportée sur les éléments matériels essentiels, mais surtout que les délais de livraison ont été rallongés pour le non-essentiel, en espérant qu'à terme, les travailleurs et les travailleuses de ces secteurs soient protégés décemment s'ils doivent continuer leur activité. Info un peu plus locale, puisque là on va parler d'Angers et du local l'Alvarium, à savoir un local associatif d'extrême droite organisé donc l'Alvarium, un local qui est géré par une association d'extrême droite catholique. Ce local a été dans la semaine repeint en différentes couleurs, donc on peut dire que coronavirus ou pas, certains n'oublient pas la lutte contre le fascisme et c'est essentiel. Information locale cette fois-ci, Alain Claës nous a gratifié d'un couvre-feu. Probablement avait-il peur que nous l'oublions durant le confinement. Mais Alain, il ne fallait vraiment pas donner cette peine. En tout cas, nous, on n'oublie pas cette dérive autoritaire de ta part. Autre information, cette fois-ci plutôt du niveau national. Peut-être avez-vous vu l'information, mais le mardi 31 mars se tenait une journée de manifestation confinée pour ne pas abandonner la lutte contre le capitalisme, l'exploitation et toutes les merdes qu'on nous fait subir au quotidien, qu'il y ait le Covid-19 ou pas. Si quelques banderoles ont pu être déployées à Poitiers et quelques affichages ont été faits, un article sur le site Reporter dresse un bilan de cette journée de lutte. Et en lien avec, dernière information en lien avec cette journée du 31 mars, information locale, puisqu'on a appris via l'ANR et Centre Presse, donc la presse locale, que l'usine de plats surgelés Marie-Surgelée qui se trouve à Mirbeau, qui tourne en ce moment à plein régime, a connu quelques moments de lutte cette semaine. C'est-à-dire que les salariés du site, emmenés par les syndicats CNTSO et la CGT, ont débrayé 2 fois 2 heures, mardi dans la journée, afin d'obtenir de meilleures conditions de travail en cette période de pandémie et surtout une prime de risque. Voilà pour les brèves.
Eh bien, merci beaucoup pour ces brèves, Daria. Et maintenant, en fait, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va parler hôpital. Et Daria, ben, je te redonne tout de suite la parole.
Tout à fait, on va parler un petit peu donc de l'hôpital. On va commencer par quelques informations relatives au secteur privé, donc c'est-à-dire tout ce qui va être clinique et hôpitaux non publics. C'est-à-dire que France Info nous a promis dans la semaine que les cliniques se préparent à soutenir les hôpitaux publics qui vont faire face à un afflux de malades. C'était un article du 28 mars. Et aujourd'hui même, ce jeudi, le même site nous apprend que le secteur privé de la santé est pleinement mobilisé. Là où cette information est un petit peu étonnante, c'est que d'un côté, les soignants publics sont débordés, épuisés et réquisitionnés, mais le secteur privé, il y a encore quelques jours, se préparer, et voire même se demander, demander en fait au pouvoir public, face à cette saturation, les établissements privés, eux, se plaignent de ne pas être assez sollicités, toujours selon France Info. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que les pouvoirs publics ne mobilisent pas tout le monde de la même manière, alors que ces structures, bien que privées, font partie du réseau de santé français. C'est donc 2 poids 2 mesures. Il est effarant de voir à quel point les pouvoirs publics ne s'appuient pas dès le départ sur le secteur privé, alors qu'on sait que l'hôpital public est depuis des années à bout de souffle, que ce soit en période de pandémie ou pas. On peut aussi, dans la même logique, voir l'interview et la colère de l'urgentiste le docteur Christophe Prudhomme lors de son interview de BFM où il renvoie dans ses 22 mètres l'éditocrate macroniste Christophe Barbier sur la question du financement de l'hôpital public. Ce qu'on peut dire aussi sur cette situation de l'hôpital, donc depuis le début de la pandémie, à 20h, principalement dans les grandes villes, on peut voir que la population applaudit pour soutenir et encourager les soignants, ce qui est un geste heureux et de soutien à ces personnes qui travaillent et se battent tous les jours pour sauver des vies. Néanmoins, cette attitude agace un certain nombre de soignants. Non pas qu'ils crachent sur le soutien qui leur est apporté, mais ils regrettent que depuis 15 ans, à part quelques militants, des syndiqués et des personnes qui s'intéressent à la question des services publics, pas grand monde ne s'est vraiment bougé le cul pour soutenir les grèves et les mouvements sociaux qui animent ce secteur depuis longtemps. Une fois de plus, malheureusement, c'est au pied du mur qu'on se rend compte que celui-ci est bel et bien devant nous.
D'ailleurs, on va tout de suite retrouver Alex, qui est allé rencontrer Ingrid, interne en médecine.
Bonjour, bonjour Ingrid, et merci de participer à Fracture et merci de répondre à nos questions. Eh bien, est-ce que tu pourrais te présenter, toi, ton travail, du coup, pour qu'on sache un peu où se situer?
Oui, alors bonjour, voilà, je m'appelle Ingrid, j'ai 23 ans, je suis interne en médecine générale. J'ai passé mon concours de fin sixième année en juin 2019 et donc là, actuellement, je suis en premier semestre. Donc de médecine générale et donc je suis dans la subdivision de Rennes et donc là je suis en stage à Fougères, donc qui est un petit hôpital à 45 minutes de Rennes et je suis en gériatrie aiguë.
Est-ce que tu pourrais nous faire rapidement un petit historique de l'épidémie au moment où vous avez commencé à voir un peu ce qui se tramait?
En fait, on a commencé à entendre parler, c'était déjà fin décembre quand ça a commencé en Chine. Après, il y a eu les premiers cas en France, à Paris, à Bordeaux, au mois de janvier. Et là, ça a commencé à s'intensifier un peu, mais il n'y avait pas encore vraiment de protocole dans les établissements et encore moins dans les petits hôpitaux tels que Fougères. Après, ça s'est vraiment intensifié chez nous fin février. Début mars, avant que le gouvernement annonce la fermeture des écoles et le confinement. On a commencé à créer des unités spéciales Covid dans les établissements, donc avec tout ce qui s'ensuit, avec des équipes médicales et paramédicales propres à ces unités-là. Voilà, il y a des protocoles qui ont été commencés début mars sur comment s'habiller, comment se déshabiller, comment recevoir un patient suspect, voilà, sachant que ces protocoles changeaient de début mars à là jusqu'à fin mars, changeaient à peu près tous les jours et changeaient surtout en fonction des services. Ça se passe pas pareil aux urgences que dans les autres services de médecine. Voilà ce que je peux en dire pour le début jusqu'à maintenant.
Par rapport à ce que tu viens de dire à la fin là sur les fameux protocoles, quand tu disais que les protocoles changeaient tous les jours, est-ce qu'il y avait comme une impréparation à une épidémie ou est-ce que en fait, par exemple dans les formations de médecins, dans les différents protocoles qui sont utilisés en général dans les hôpitaux, il y a déjà une liste en fait de protocoles suivant les problèmes qui se posent?
Je pense qu'on n'était pas préparé comme dans n'importe quel hôpital comme partout en France. En fait, c'est venu, on l'a vu venir, mais en fait, on n'a pas été, je pense, comme tout le monde, personnel médical ou non médical, on s'est dit que ça n'arriverait pas chez nous, mais maintenant, c'est chez nous. Et non, on n'était pas préparés, les hôpitaux n'étaient pas préparés, les stocks, peut-être qu'on y reviendra après, mais les stocks de biens pour la protection, les gants, les masques, les surblouses, on s'attendait pas du tout à avoir besoin de tout ça. Et oui, quand je dis les protocoles ont changé, c'est-à-dire que tout s'est mis en place assez rapidement et que nous, même dans un petit hôpital tel que Fougères, tout a changé en fait toutes les 24-48 heures selon qui allait s'occuper de l'unité, quels patients on gardait, quels patients on envoyait à Rennes, qui on testait, ça d'ailleurs qui est toujours une question assez importante et dont on n'a pas toujours la réponse. Mais voilà, ça a changé tous les jours. Là, c'est en train de se stabiliser. Et comme à Fougères, on n'est pas encore, comme dans la plupart de la Bretagne et de la région des hôpitaux de Rennes, on n'est pas encore rendu au pic de l'épidémie. Là, c'est plutôt stable ces derniers jours, donc voilà, on attend. Mais les protocoles sont plutôt clairs pour le moment.
Tu es rattaché à Rennes, mais tu es sur un hôpital qui est subordonné à Rennes. Comment ça se passe?
Bah, en fait, ce qui est différent, donc, c'est que par exemple, si on prend la région de Rennes, donc Fougères, on a un établissement de niveau 3. Donc, c'est-à-dire, par exemple, le niveau 1, c'est le CHU de Rennes. Après, les niveaux 2, dans la région Bretagne, ça serait Saint-Brieuc, Lorient, Vannes, ce qui correspondrait en fait dans la région Poitou-Charentes, sûrement à La Rochelle, Angoulême. Et après, il y a les petits établissements niveau 3, donc comme Fougères. Et donc, en fait, on dépend de l'ARS de Rennes. Donc, en fait, on est chapeauté par le CHU, donc notamment tout ce qui est matériel, au niveau du stock, voilà, donc de tous les équipements, masques et tout ça. Et en fait, c'est qu'on n'a pas les mêmes moyens. C'est surtout ça, c'est qu'on nous demande, par exemple, nous, actuellement, à Rennes, on n'a pas de service de réanimation. Donc quand on est aux urgences et qu'on a des suspicions graves, que les gens arrivent dans un état grave qui nécessite d'être hospitalisés, puis plus ou moins d'être intubés, donc ils sont directement transférés à Rennes. Et après, ceux qui ont, pour le moment, là je parle au 1er avril, ceux qui sont suspects et dont on fait le prélèvement sont hospitalisés chez nous. Mais une fois positifs, s'ils sont positifs, ils partent à Rennes. Pour le moment, ils ne restent pas chez nous. Donc on n'a pas de cas Covid positif dans les services. Mais ce qui nous pose problème, c'est que effectivement le stock, tout dépend de Rennes. Sauf qu'on nous demande d'intervenir. Enfin, on prend en charge aux urgences des gens qui sont suspects, donc qui sont adressés par le SAMU après régulation, qui sont amenés par les pompiers, par les ambulances. Donc on nous demande de les prendre en charge. Sauf que derrière, en fait, on nous donne pas les moyens de les prendre en charge. On n'a pas de quand on voit les gens à la télé, à Paris, à Rennes, dans l'Est, n'importe où, qui sont habillés tel l'épidémie comme c'était à Ebola. Nous, on n'a pas du tout ces moyens-là, en fait. On fait avec les moyens du bord. On a des masques depuis le 26 mars. Et c'est ça, c'est venu très très tard, en fait, l'annonce du confinement par le gouvernement qui était le 16 mars. Nous, on a eu les premiers moyens de protection le 16 mars, en fait. Donc, soit 10 jours après, ce qui est quand même pas, enfin, ce qui n'est pas tolérable. Et même là, on a des masques, mais c'est-à-dire qu'on est en restriction. Donc, c'est un ou deux masques par jour selon le nombre d'heures qu'on fait, selon le nombre d'heures qu'on travaille par jour. Voilà, sachant que c'est des masques chirurgicaux, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas des masques FFP2, donc c'est des masques qui protègent les patients si nous on est malade, mais qui ne protègent pas nous à 100% quand on est en contact avec des gens suspects aux urgences. Voilà. Donc on nous demande de prendre en charge ces gens-là, mais sauf que derrière on n'a pas les moyens de le faire actuellement.
Et alors, par rapport à ces questions de moyens et de matériel, est-ce que vous, sur un hôpital comme Fougères ou sur Rennes, mais on peut aussi avoir, du coup, je pense, la même logique au CHU de Poitiers, puisque le pic n'est pas encore atteint, en termes de demande pour le personnel soignant, là, actuellement, qu'est-ce qui est le plus urgent?
Bah, c'est tout d'abord les urgences, enfin le personnel des urgences, donc infirmiers, aides-soignants, internes et médecins, puisque eux sont au premier contact, de premier contact avec les patients. Et donc c'est sur ces services-là qu'il faut assurer le maximum de personnel. Après, nous, à Fougères, il y a la maison de retraite, l'EHPAD fait partie de l'hôpital, et c'est aussi un gros secteur, enfin, où il y a besoin de beaucoup de personnel mobilisable, en fait, à tout moment. C'est surtout sur ces services-là.
Pour faire le lien avec, par exemple, le mouvement du personnel soignant depuis 1 an et demi, est-ce que ce mouvement-là, que ce soit des internes ou des infirmiers, des infirmières, des médecins, est-ce qu'il est toujours présent?
Oui, il est toujours présent et je pense que la population, le personnel soignant est en colère depuis plusieurs années et on n'a pas été écouté jusqu'à présent et je pense que maintenant les gens s'en rendent compte de l'extérieur qu'effectivement c'est dans l'hôpital public qu'il fallait mettre des moyens et de l'argent et ce qui n'a pas été fait sur ces dernières années. Même si oui, le personnel est en colère, il est quand même, pour le moment, je veux dire, tout le monde se soutient et il n'y a pas eu de problème sur les présences, sur les absences, et que même si l'État nous a un peu dénigrés, tout le monde est quand même là, présent.
Ok.
Prêt.
Du coup, ça ressemble vraiment à une gestion au jour le jour, quoi.
Oui, c'est ça, c'est tout à fait ça. Tous les jours, on a un bilan des lits, savoir combien il y a de place, combien il y a de lits dans chaque service avec le personnel, sachant qu'il y a du personnel qui est en arrêt, certaines personnes se sont mises en arrêt, mais de façon légitime parce qu'elles-mêmes sont atteintes de maladies chroniques, donc qui sont des personnes qui sont à risque si elles sont en contact avec des patients suspects. Donc il faut déjà faire face à ces absences-là avant même que le pic n'arrive. Donc ça, c'est surtout le rôle des cadres de service. Et après, voilà, il faudra faire, ça sera au jour le jour, en fait, quand il y aura le pic, si Fougères est atteint par le pic. Ça, c'est toujours la question qu'on se pose tous les jours. Si le pic vient jusqu'à Fougères, oui, ça sera une prise en charge au jour le jour avec le personnel présent et voilà.
Ok. Du coup, alors, je reviens un peu par rapport à ce que tu as dit sur les fameux tests. Tu parlais des tests, il y a eu pas mal de polémiques autour de ça. Est-ce que tu peux nous aider un petit peu à clarifier la situation sur l'utilité des tests et si justement ils sont, c'est important ou intéressant de tester tout le monde ou pas?
C'est ça. Alors là, déjà, je dirais que je suis pas à même de juger si on prend à plus grande échelle au niveau mondial, il y a certains pays qui ont fait tester, qui organisaient enfin, qui testaient les gens directement à leur voiture, sur la route. Donc en fait, la plupart des gens ont été testés, même s'ils étaient asymptomatiques. Ce qui s'est passé en France, c'est une politique tout autre, enfin, différente. Je pense que ça, on pourra que évaluer et avoir un retour dans quelques mois, dans quelques années, quand ça sera fini. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on teste, par exemple, nous à Fougères, les gens qui ne sont pas graves, qui ne nécessitent pas, qui n'ont pas de critères d'hospitalisation, rentrent chez eux sans être testés. Donc, ils sont donc en confinement, on les met en confinement, enfin, on sont en confinement pendant 14 jours. Et après, ceux qui nécessitent d'être hospitalisés, qui ont des critères d'hospitalisation plus ou moins graves, mais qui sont hospitalisés, ceux-là, on les teste et on teste aussi en plus le personnel soignant qui présente des symptômes, et le personnel soignant qui est hospitalisé ou non. Sauf
Ok.
qu'on arrive, enfin, je sais pas actuellement, je pense qu'on est un peu un virage, c'est qu'on arrive au bout des réactifs concernant le nombre de tests. Donc peut-être que les indications de tests vont être rétrécies, mais ça je sais pas encore, je peux pas vous dire. Et après concernant effectivement qui on teste en France, comme ça je dirais que il y a peut-être eu des abus. J'ai l'impression qu'on a testé toutes les personnalités politiques alors qu'elles étaient asymptomatiques. Est-ce que c'était une bonne chose ou pas? Je sais pas. Après peut-être qu'on se dit même si on n'est pas symptomatique et qu'on a été testé et qu'on est positif, bah du coup ça nous pousse aussi à respecter un peu plus ce confinement. Peut-être que finalement c'est une bonne chose, mais du coup il faudrait l'appliquer à toute la population.